Nicolas Puig et Timothée Brochier nous invitent à écouter les sons sous-marins en compagnie des chasseurs apnéistes de la baie de Dakar. Avec eux, ils ont conduit une recherche collaborative d'écologie marine. Les chasseurs sénégalais leur ont transmis leurs connaissances approfondies de l'environnement sonore sous-marin.
La houle, elle est là. Les fonds. Ça ne monte pas.
Le son du silence.
Nous prêtons peu d'attention aux sonorités sous-marines, car nous sommes plus habitués aux bruits terrestres de la mer, comme ceux des vagues qui s'échouent sur la grève. Et pourtant, si nous mettons la tête sous l'eau, nous discernons souvent une sorte de crépitement dont l'intensité varie selon les mers. Le monde sous-marin est en fait loin d'être silencieux, et certains habitants des littoraux savent très très bien l'écouter.
Je suis Timothée Brochier, je suis océanographe à l'Institut de Recherche pour le Développement, affecté au Sénégal à l'université Cheikh Diop à Dakar, où j'explore les possibilités ouvertes par la bioacoustique pour suivre l'évolution des écosystèmes marins sous l'effet de la pêche, du changement climatique et de la pollution. Pour ce faire, j'ai immergé des hydrophones autour de Dakar avec l'aide d'un pêcheur-chasseur apnéiste, Babacar Sy. Il porte lui aussi une attention aux sons sous-marins dans sa pratique et il possède une connaissance très fine de cet écosystème. L'idée d'intégrer le savoir de Babacar à l'analyse des sons sous-marins s'est développée à partir de là. Mais il manquait une méthode pour créer un dialogue autour de nos différents savoirs. Et en discutant avec un collègue, Nicolas Puig, une approche possible a émergé.
Je suis Nicolas Puig, anthropologue à l'IRD. Je m'intéresse aux pratiques et perceptions sonores pour l'étude de villes arabes. Au Caire, avec mon collègue Vincent Battesti du CNRS, nous avons déployé une méthodologie spécifique pour accéder à la description de leur expérience auditive par des citadins. Nous avons équipé ces habitants de micro-binauraux placés au niveau de leurs oreilles afin qu'ils enregistrent les sons lors d'un parcours à pied effectué dans leur environnement familier. Au terme du parcours, les personnes ont écouté l'enregistrement pour le commenter. Cette méthode nous a permis d'obtenir des récits détaillés d'expériences auditives, support de descriptions inédites de la vie urbaine. Nous nous sommes demandé si cette approche pouvait être transposée au travail de Timothée avec les pêcheurs sous-marins de Dakar, en immergeant en quelque sorte le dispositif du Caire. Le but était d'obtenir cette fois-ci des descriptions de plongée et au-delà, de susciter une parole sur les mondes sous-marins. Pour conduire cette expérience, nous avons collaboré avec des chasseurs sous-marins originaires des quatre principaux sites dakarois, situés sur la partie rocheuse de la péninsule du Cap-Vert, et donc plus propice à la chasse sous-marine. Ngor, Wakam, Yoff et Gorée. Mais Babacar Sy, de Ngor, fut notre partenaire principal.
Salut Babacar, c'est Timothée. On est en train de préparer une petite émission avec Nicolas pour présenter nos travaux. Est-ce que tu pourrais nous envoyer un message vocal où tu te présentes ?
Je m'appelle Babacar Sy. Je suis sénégalais et je plonge dans un petit village qui s'appelle Ngor. Et je plonge pour, c'est mon métier, je plonge pour pêcher des poissons et les vendre dans les restaurants ou peut-être des gens qui vont acheter pour ces œufs, des fois pour ma famille, donc c'est après mon métier. Je le fais, ça fait au moins 30 ans que je prends tous les jours, donc c'est mon métier.
Nous leur avons demandé d'effectuer une plongée avec une caméra dotée d'un micro performant, adapté à l'expérience, que l'on fixe sur le front.
Alors c'est vrai, la caméra tenait mal sur la tête. C'est le bricolage de la recherche. Babacar a ajouté une mentonnière sous forme d'une bande élastique, ce qui permet d'assurer la fixation de la caméra.
À travers les descriptions et commentaires de plongée, nous accédons aux connaissances et imaginaires des pêcheurs, ce que la littérature scientifique décrit comme des savoirs écologiques locaux. Ces savoirs peuvent nous permettre de déplacer les frontières des connaissances scientifiques. Dans notre approche, la perception sensorielle, l'écoute et l'audition sont la source d'une partie de ces savoirs.
Nous avons recueilli un matériel très important sous forme de vidéos, de sons et de commentaires de plongée. Et les contenus se révèlent particulièrement riches et vont de la description des sons de la mer jusqu'au comportement des poissons, mais aussi à l'écologie en elle-même, la pollution, les courants marins, la géographie sous-marine et son évolution autour de la ville. L'un des premiers résultats qui nous a frappé est l'identification et la description d'un fond sonore constant que les chasseurs soulignent dans leurs commentaires, comme Dias qui attribue l'origine de ce son aux oursins de la cassure sous-marine appelée Tombant Djengen.
Dias, 15 avril 15h54, commentaire du GoPro 3791. 3, 2, 1.
Moi, il tombe à Djengen.
Oui, ici, c'est tombe à Djengen. Mes gars plongent là-bas, mais c'est l'eau qui n'est pas très claire. Mais ici, Dieu sait qu'on y pêchait de très bons poissons. On pêchait des mérous, des vivanos. Les sons que tu entends là, c'est ceux des oursins. Ce sont les oursins qui crient comme ça, quoi. Voilà, c'est ce qui fait ce bruit-là. C'est le bruit des oursins. Ici, c'est à Djengen.
Babacar identifie aussi dans ce fond sonore l'effet des saisons, visible à la variation des densités d'algues dont se nourrissent les oursins.
D'ici, en fait, qui sont en profondeur, en fait, comme les électriques, ils ont un son qui n'a pas, qui en fait, compare avec les autres. Parce que eux, ils ont, en fait, ils bougent pas, ils bougent leurs aigus, comme en fait, différemment. Tu vois, ils le bougent croisés comme ça. Tu vois, donc c'est comme vraiment quelqu'un qui, en fait, qui prend deux baguettes, tu les aiguises. Mmh. Alors, ça fait un bruit de comme ça. Il le fait, mais bon, pas. Il faut que tu t'approches et tu fais des agachons pour en savoir plus.
Comme nous le disions en introduction, ce fond sonore, une sorte de crépitement, est très répandu dans l'océan. Mais dans la littérature scientifique, il a surtout été attribué à une espèce de crevette, la crevette serpentine, snapping shrimp en anglais. Mais les chasseurs interviewés à Dakar n'ont pas mentionné cette crevette et attribuent l'origine de ces crépitements au fait de l'alimentation et du déplacement des oursins et à des effets sonores induits par les mouvements de l'eau sur le fond. Plusieurs recherches récentes en laboratoire corroborent le constat des pêcheurs en montrant que les oursins peuvent générer ce type de crépitement.
En fait, Nicolas et moi nous apercevons assez vite que les chasseurs développent une acuité auditive sous-marine importante. En plus des différents types de sons identifiés parmi les crépitements à la réécoute des plongées, ils décrivent aussi des sons que nous ne pouvons pas du tout discerner. Par exemple, dans l'enregistrement suivant, Babacar a signalé le son d'une baudroie lointaine.
On avait beau réécouter en augmentant le volume, on n'entendait rien en dehors du fond constant des crépitements. Pourtant, une analyse du signal sonore permet bien de détecter la partie très grave d'un son de poisson, donc probablement émise par un poisson lointain, puisque les sons graves voyagent plus loin dans l'eau. Puis en filtrant les aigus émis par les crépitements, nous parvenons à l'isoler de ce fond sonore constant.
On se rend compte que cette acuité auditive remarquable leur permet de différencier des sons de poissons, d'identifier une espèce ou un comportement, voire un état général de l'écosystème. Cette compétence sensorielle est importante pour la recherche. Elle nourrit aussi les imaginaires. Écoutons par exemple ce que dit Maurice à l'écoute des chœurs hypnotiques des hyènes de mer, Bookie Gage.
Ça, c'est le son que fait cette espèce bizarre-là. On ne sait pas ce que c'est.
Tu peux dire le nom du fichier ?
2019-01-10-T-23-58-59.
Ok.
Ça va, là, tu l'entends bien.
J'ai peur, là. Je vais les appeler,
ah,
les
là,
gamins.
Ah, là, tu l'entends bien,
ouais. C'est pas comme des mobiles.
Bah, mais nous, ça nous faisait peur, hein, franchement.
Mais... Donc ce serait intéressant de l'identifier.
Ça se bien quand même.
Bah, moi je suis sûr que ce bruit là, il y a tous les chasseurs qui le connaissent. Tous les chasseurs.
Donc pour toi, t'entends ça, tu sais que c'est pas la peine d'insister quoi.
Ouais, c'est sûr.
Ça c'est une alerte sonore comme quoi tu rentres pas.
Ok. Donc là, c'était dans les fichiers des Bijagos, mais je l'ai enregistré aussi aux Almatis, celui-là. C'est vraiment le même, quoi.
Ouais, c'est vraiment le même. Et là, tu peux même voir qu'il y en a beaucoup, quoi.
Ouais.
Ici, c'est possible que des fois, ce soit un seul bruit qui est constant, en fait, qui part et qui revient. Et d'habitude, ça se trouve que sur les rochers.
Ah, c'est pas là où il y a le sable.
Entre les sables et, entre le sable et les rochers en fait.
Ouais. Par exemple, là où
parce
on
que
était...
par exemple sur les épaves tu trouveras jamais ce bruit.
D'accord. Et là où on a plongé là?
Ouais, c'est sûr, c'est possible.
Tu peux l'avoir.
Ouais, tu peux l'avoir là-bas.
Ok. Et il n'y a pas une saison particulière où ça arrive que tu le vois quoi? Ça peut être n'importe quand.
Ça peut être n'importe quand, ouais. Ça peut être n'importe quand. Mais plus à l'arrivée de la des eaux froides.
Maintenant.
Ouais. On peut dire vers décembre. Novembre-décembre avant. En fait, d'habitude, c'est la période des vaches maigres, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de poisson. Mais ce bruit-là, il est constant. Quoi.
C'est comme une sorte de communication entre eux. Mais au début, avant moi, je comprenais que c'était quoi.
Babacar s'est également interrogé sur ces sons étranges émanant du fond de l'océan. Nous en discutons dans le modeste abri au bord de l'eau, où il se tenait aux Almadies, avant qu'il ne soit détruit pour laisser la place à une énième terrasse de restaurant. La houle derrière nous tonne et recouvre ses paroles. Avec Timothée, nous tendons l'oreille.
Il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'ils se communiquent.
Au début de sa carrière de plongeur, Babacar ne comprend pas d'où viennent ces sons. Il imagine des échanges entre des baleines, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'ils proviennent de poissons, parfois nombreux, cachés dans des trous ou enfouis dans le sable. Il les observe émettre ces sons réguliers qui semblent se répondre les uns aux autres. Il les décrit comme des petits poissons, plats comme des sols, dont la gueule rappelle celle des requins baleines. Pour Babacar, ces poissons communiquent entre eux. Mais lui, comme les biologistes marins d'ailleurs, ignore les raisons de ces communications. Babacar identifie le poisson à l'origine de ces sons. C'est le Bookie Gage, la bien nommée hyène de mer.
Bookie.
D'accord. Avec ça, moi, je peux trouver...
Hyène
de mer. Le son du Bookie Gage est aussi reconnu par les chasseurs dans des enregistrements à l'hydrophone réalisés en zone de mangrove. En approfondissant les échanges avec les chasseurs de Ngor, nous avons pu identifier le Bookie Gage. Il s'agit du Batrachoides liberiensis, une espèce qui n'est pas ciblée par les pêcheurs. Et justement, une récente publication scientifique rassemble l'état des connaissances de l'écologie de cette espèce qui est associée aux eaux troubles des mangroves. Et donc son observation par les chasseurs dans les eaux rocheuses de la péninsule élargit les connaissances sur l'habitat et le comportement de cette espèce.
Ces situations montrent concrètement l'apport des pêcheurs à la connaissance de l'écologie sous-marine. Que ce soit pour l'origine du son sous-marin constant, pour identifier des sons de poissons, ou déterminer l'habitat de la fameuse hyène de mer. Ces savoirs écologiques peuvent aussi se lire à travers les représentations du monde sous-marin des pêcheurs. Ainsi, lorsqu'ils analysent le comportement des poissons, les pêcheurs apnéistes de Dakar leur prêtent des intentions et utilisent la figure de l'analogie avec les mondes humains pour penser leurs relations communes. Ils les intègrent dans un vaste système de relations liant les espèces, les humains et les non-humains. C'est le cas dans le type d'interaction tout à fait particulière qui s'instaure entre le chasseur apnéiste et le poisson qu'il désigne par le terme « invité ou étranger », « gan » en Wolof, un poisson qui vient d'ailleurs et se tient sans méfiance devant le harpon du chasseur, une situation décrite par Magit.
C'est intéressant. Donc, il dit que quand l'eau est claire et que tu descends, tu te poses juste sur le rocher et l'eau vient vers toi. Ici, dans,
et le poisson vient vers toi.
Excuse-moi, le poisson donc vient vers toi. Et ici, donc, dans la communauté, ils appellent ça un poisson étranger. Il ne connaît pas bien, donc il ne connaît pas la zone et tout ça. C'est pour ça qu'il vient vers toi.
Il vient devant la flèche et qu'il est chargé. Il regarde la flèche comme ça. Tu vois. Mais si c'est un poisson qui connaît bien le fusil, mais il va pas attendre que tu le... tout ça, nous on appelle ça, dans le mot lebo, badesugan. Ba tiofugan. Tiofugan. Gan. Tiofugan.
En approfondissant la discussion sur ce point, il apparaît que la présence des espèces dites GAN correspond aux migrations saisonnières des poissons. Ces observations viennent renforcer la littérature scientifique qui suggère la coexistence de comportements sédentaires et migrants au sein d'une même espèce chez les Tiof de la péninsule du Cap-Vert. Il apparaît même que les pêcheurs seraient en mesure de différencier par leur couleur les poissons sédentaires des migrateurs GAN. Ces observations ouvrent des perspectives très intéressantes en termes de gestion des captures et amènent de nouvelles pistes de recherche. Ces différents savoirs peuvent être intégrés dans notre recherche pour l'étude de l'écosystème marin sénégalais et pour sa gestion avec les communautés locales.
La méthode immersive est donc une nouvelle approche pour faciliter l'intégration des savoirs locaux dans les recherches. Les premiers résultats sont encourageants. Il reste à approfondir l'analyse des données recueillies au Sénégal et à déployer cette approche collaborative sur d'autres terrains. En Colombie, par exemple, où des écologues cherchent à mieux dialoguer avec les savoirs locaux, ou encore au Liban, où je collabore depuis plusieurs années avec l'université libanaise. Dans ce petit pays méditerranéen, les écologies locales sont traversées d'enjeux économiques et politiques, régionaux et globalisés.